Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un ministre dans la tourmente, les vacances à Ibiza de Monsieur Blanquer ne passent pas. L'opposition réclame à nouveau la démission du ministre de l'Éducation nationale à deux jours d'une nouvelle mobilisation des enseignants qui, eux, demandent plus de moyens pour faire face à la crise sanitaire. Jean-Michel Blanquer s'est justifié devant les députés à l'Assemblée nationale en regrettant la symbolique du lieu de ses vacances personnelles. On l'entendra, c'est la deuxième fois en deux semaines qu'il s'excuse. La semaine dernière, c'était sur le protocole sanitaire annoncé trop tardivement avant la rentrée des classes de janvier. L'exécutif, embarrassé par l'affaire, affirme qu'il n'a pas enfreint les règles imposées au ministre, mais tout en reconnaissant que cette destination Ibiza était malvenue. On va évoquer ce soir le cas Jean-Michel Blanquer. On entendra les nombreuses réactions qu'il suscite du côté politique. Sur le front de la pandémie, cette fois, les nouvelles sont pourtant meilleures. On a des raisons d'être optimistes, affirmé ce matin sur CNews le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, puisque le nombre de contaminations est bien en baisse. Une très mauvaise nouvelle, en revanche, pour le pouvoir d'achat des Français. Les prix des carburants flambent à nouveau, avec des records qui s'approchent du début du mouvement des Gilets jaunes. Et cela va continuer à monter, pas de question de donner un nouveau coup de pouce aux automobilistes, affirme le gouvernement qui rappelle avoir déjà fait un effort substantiel avec le chèque énergie de 100 euros distribué à plus de 5,8 millions de foyers modestes. On reviendra aussi sur cette fusillade, une nouvelle fusillade qui a fait un mort dans les quartiers nord de Marseille. Un homme de 29 ans très connu des services de police qui a fait sans doute l'objet d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Des scènes qui font penser au film Bac Nord selon les syndicats de policiers. Et puis il y a aussi ce deuxième jour de fouilles dans le Tarn pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubilard plus de 13 mois après la disparition de la jeune mère de famille, sans résultat pour l'instant. Et puis l'autre grand thème de l'actualité, c'est la question de l'Europe, puisqu'Emmanuel Macron prononce demain à Strasbourg son grand discours pour marquer le coup d'envoi de la présidence française de l'Union européenne. Marine Le Pen dénonce les jumeaux Macron et Pécresse sur cette question de l'Europe. Elle estime qu'il n'y a pas de peuple européen. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, affirme qu'il ne peut pas y avoir un Club Med en Europe. Voilà pour les grandes lignes ce soir. On va évoquer tout cela avec nos invités. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Consultant CNews. Jean Garriguela, bonsoir.
Bonsoir.
Président du comité d'histoire parlementaire. Je signale l'édition en livre Petite Biblio de cet ouvrage, Une histoire érotique de l'Élysée, que vous avez écrit. Mon cher Jean Garrigue. On est aussi avec maître Gilles-William Golnadel. Bonsoir.
Madame Ferrari.
Vous êtes avocat de votre État. Autre avocat, Thibault de Montréal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi conseiller régalien pour Valérie Pécresse sur toutes les questions qui ont trait à la sécurité. Tout de suite, on va commencer par le scandale du jour. En tout cas, voilà, la polémique du jour, les explications de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a tenté de désamorcer la polémique sur ses vacances à Ibiza. Il a affirmé regretter la symbolique de cette destination. Écoutez-le.
Alors, il ne m'a pas échappé qu'il y avait, au-delà de la taxe sur la politique, la taxe sur la personne et sur le sujet éventuel de mes vacances. Je voudrais, en quelques mots, vous le dire. D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce que il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça ? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs ? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Voilà pour ces propos de Jean-Michel Blanquer. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Jean-Michel Blanquer, stop ou encore ? Les oppositions ne cessent de réclamer sa démission. On en débat ce soir sur le plateau, mais tout de suite on fait le point avec ces explications de Kinsen.
Jean-Michel Blanquer à Ibiza, lorsqu'il annonce le nouveau protocole sanitaire, un timing qui ne passe pas auprès des syndicats enseignants, dont le SNALC, le président Jean-Rémy Girard fustige le ministre de l'Éducation nationale.
Les personnels de l'Éducation nationale en ont quand même ras-le-bol du manque de respect
Le problème, c'est pas tant qu'il ait été à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Le problème, c'est qu'on a eu à appliquer un protocole le lundi de la rentrée, qu'on a découvert le dimanche soir dans un article payant, et qui n'est même pas arrivé sur nos messageries professionnelles.
Même son de cloche du côté des écologistes. Yannick Jadot réclame même la démission de Jean-Michel Blanquer.
Depuis des mois et des mois, il méprise la communauté éducative, il méprise les enseignants, il méprise les parents d'élèves et les élèves.
Chez les communistes, un autre candidat à l'élection présidentielle hausse le ton. Fabien Roussel dénonce un manque de sérieux du gouvernement.
Ça ne fait que confirmer qu'on a un ministre qui se moque éperdument des enseignants. J'en entends beaucoup qui appellent à sa démission. Si c'est pour mettre le même à Blanquer-Bis, ça ne change rien. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça change.
Toujours à gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo s'empare du sujet pour faire campagne.
Moi, ce qui m'importe, c'est de pointer du doigt ces manquements. Depuis le début, d'ailleurs, ce service public essentiel a été très abîmé.
Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, en remet une couche.
Cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle.
Pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il n'y a aucune leçon à donner.
Ce qui est très clair, c'est qu'il faut être facilement rapatriable, entre guillemets, à Paris si besoin, et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. J'ai pas de raison de penser que ça n'était pas le cas.
Une affaire qui fragilise encore un peu plus Jean-Michel Blanquer. Ce jeudi, une deuxième journée de grève est prévue dans les écoles, collèges et lycées.
Voilà pour cette polémique autour de Jean-Michel Blanquer. Thibault de Montbrial, est-ce que vous faites partie de ceux qui réclamaient à corps et à cri la démission du ministre de l'Éducation nationale pour ses vacances ?
Non, mais je suis quand même très étonné par la forme de naïveté politique. C'est-à-dire que voilà un ministre qui est au travail depuis 2017. Certes, il vient de la société civile, mais il a fini par comprendre les us et coutumes et la dureté du milieu politique. Et on est dans une situation où les écoles sont sous tension et où la France, en général, est une société très fracturée. Et comment, dans ces considérations, est-ce que Jean-Michel Blanquer a eu l'idée d'aller dans un lieu qui, à tort ou à raison, correspond au symbole d'une certaine forme de fête et de laisser aller, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est presque bête à pleurer. Alors évidemment, il était en capacité de travailler, il était en capacité, sans doute, est-ce que quand il dit ça n'aurait rien changé s'il avait été en France ? Peut-être. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a de telles difficultés à l'école, dans les collèges, dans les lycées, de telles difficultés avec les syndicats, que c'était vraiment donner le bâton pour se faire battre. Mmh. Et pour tout vous dire, je suis assez sidéré par ce qui apparaît quand même comme un manque de professionnalisme et de considération pour les gens qui sont administrés par ce ministre.
Maître Gonadel, est-ce que vous êtes hérité par cette polémique ou pas du tout ? Il avait le droit d'aller en vacances où il voulait ?
Non, j'ai hérité. Je ne veux pas m'irriter pour n'importe quoi, surtout pas pour un scandale à deux balles. C'est quoi cette histoire de symbole ? Ibiza, ce n'est pas non plus les Bahamas. Il est à 2 heures de Paris. Il fait du télétravail. En l'occurrence, ce qu'il a fait, ce n'était pas terrible, au demeurant. Mais bon, je comprends que M. Mélenchon, le responsable du Parti communiste, aurait préféré qu'il soit à La Havane ou à Roubaix, je ne sais pas. Mais enfin, je vous avoue que j'ai plus de considération pour quelqu'un qui fait du télétravail à Ibiza, plutôt que des types qui sont en grève à Maubeuge.
On a déjà connu des scandales autour de ministres qui tournaient autour de crustacés.
Je trouve qu'il devrait s'excuser.
On a les scandales qu'on mérite, peut-être. Vous avez raison, maître.
Je trouve qu'il devrait s'excuser de s'être excusé.
Il devrait s'excuser. Absolument. Vous allez toujours un peu plus. Jean Garrigue.
Moi, je partage l'opinion de mes deux prédécesseurs qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup plus que ce que j'ai entendu pendant toute la journée, où des termes de scandale, de mépris, etc., ont été entendus. C'est de bonne guerre, on est dans une campagne présidentielle qui commence, c'est normal d'exploiter effectivement cette faute de goût du ministre, cette faute d'amateur. Alors que lui est loin d'être un amateur, c'est quelqu'un qui est dans le monde politique depuis très très longtemps en fait. Jean-Michel Blanquer. C'est assez étonnant de sa part. Sur le fond des choses, il faut quand même rappeler que les préconisations du Conseil de santé, il les a le 31 décembre et qu'il fait
le vendredi
interview,
soir. Voilà.
Il fait interview le samedi.
Elle parle dimanche.
Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre à quel point on est. C'est le virus qui dicte l'agenda politique, qui sont un peu à la remorque, que la communication avec le monde éducatif n'a pas très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut savoir aussi que les syndicats, ils mettent pas forcément du leur. C'est pas forcément leur tasse de thé. On le voit bien dans les réactions hyperboliques de la gauche autour de ce qui s'est passé.
Pas seulement donc, de la gauche.
Hein. Et pas seulement de la gauche. Mais c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une faute de goût, une faute politique de la part de Jean-Michel Blanquer. Il faut le reconnaître.
Okay. Jean-Claude Dessier, sur
moi,
ce
encouragé
sujet.
Encouragé par mes voisins, Gilles William et Jean, je dirais qu'en effet, fait, on a les polémiques que l'on mérite et que
c'est moi qui l'ai
on
dit.
Avait déjà c'est eu, mais eux. Vous avez raison.
Non, je l'ai dit aussi.
Hein. Oui. Avait déjà
rendons
eu
à César ce qui est à César.
Et Omar, ou les langoustes, scandale du scandale.
C'était les Omar.
Et Omar, c'était leur job à François de Rugy qui était au comble du ridicule, en plus des dénonciations débiles. Là, moi, je veux bien que Ibiza, ce soit le lieu des perditions, de la. On imagine. Franchement, bon. C'est terrible, surtout en hiver, ça doit être follement gai. Bon, ouais. Je reconnais qu'on est aussi en période présidentielle. Je veux bien admettre, et d'ailleurs il l'a reconnu lui-même, je ne vais pas être plus blanquériste que Blanquer, il a reconnu lui-même qu'il avait fait une sottise. Très bien. On va y passer la semaine, la quinzaine. Maintenant, il faut bien voir
qu'on
est, en effet en période électorale, et que ça fait un bout de temps, tout de même, que l'opposition et les syndicats rarement de droite, de l'éducation nationale, essaie de créer une crise sociale à l'éducation nationale, pourquoi pas ? Ça marche mal, l'éducation nationale, je sais pas qui est responsable, mais ça fait un bout de temps quand même qu'on est au fond du fond, parce que il n'y a pas que le ministre qui soit responsable.
Non, pense.
Donc là, ils veulent un trophée, et le trophée, effectivement, Blanquer, ministre depuis le début du quinquennat, qui n'a pas fait, semble-t-il, que de mauvaises choses. Certains prétendent même, mon Dieu, comment ose-t-il que ce serait plutôt un bon ministre. Si on peut avoir le trophée du dit Blanquer, on ne va pas s'en priver. Je doute, mais je peux me tromper, que le président de la République écoute ses bons conseils et leur offre un des ministres qui a donné le plus de satisfaction et à l'Élysée, et sans doute aux parents d'élèves et aux Français. Encore une fois, les syndicats sont dans leur rôle. Parfois, ils devraient peut-être un peu plus penser aux élèves, et plutôt que de systématiser les grèves le jeudi pour avoir des capteurs de CO2 et des masques FFP2, un peu court comme revendication, pour avoir une semaine, une journée de grève toutes les semaines. Mais enfin, c'est leur affaire. On voit les résultats de toute façon de cette action brillante. L'éducation nationale mérite que le prochain président ait à cet égard une politique énorme d'aide, mais pas seulement d'aide de moyens, aussi de réflexion sur la manière dont ça fonctionne, et de voir pourquoi on a un bac qui ne veut plus rien dire, on est en queue de tous les classements, de tous les pays européens ou mondiaux, l'éducation nationale française s'effondre, et les enfants en souffrent, et qu'est-ce qu'on fait ? En grève tous les jeudis pour avoir des masques FFP2 et des capteurs.
C'est caricatural, Jean-Claude, vous le savez parfaitement.
C'est pas une caricature, ils n'ont rien d'autre à demander que on appelle les retraités, ce que va essayer de faire. Hein, bon.
Bah oui, parce qu'il y a quand même il y a un Covid, vous êtes au courant.
Tout ça,
une épidémie de Covid,
mais
vous
enfin,
êtes au courant.
L'éducation nationale en souffre, mais tout le monde en a souffert. Alors,
mais oui, mais eux aussi.
Non, mais je veux dire, est-ce que ça mérite une grève toutes les semaines ?
Attendez, là, c'est la deuxième session. Thibaut de Montbrial, il faut un plan national, un plan Marshall pour l'école ?
Oui, bien sûr, mais ça c'est de toute façon, il faut aujourd'hui, pour essayer de guérir la société, il faut d'abord restaurer de l'autorité, partout et notamment à l'école, et une fois qu'on aura restauré un socle d'autorité, on pourra développer des programmes d'éducation, des programmes qui permettront d'apaiser la société. C'est en tout cas ce que veut faire Valérie Pécresse. Mais pour en venir au sujet, un dernier mot peut-être que je voudrais dire, c'est que je fais partie des gens qui considèrent que les politiques, non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir de se reposer. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des gens aux affaires soumis à des stress, soumis à des crises graves, qui sont épuisés. On dit à juste titre que dans les entreprises, il y a des risques de burn-out, des gens qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils ne se reposent pas assez. Moi, je pense que le politique a lui aussi le droit et même le devoir de se reposer. Simplement, comme je l'ai déjà dit, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, il y avait un problème de symbole. Et je crois que quand on traverse une crise, et la crise du Covid en est une, et qu'on est à la tête d'un ministère comme celui-là, il est peut-être plus sage de prendre ses vacances en France en pensant au symbole.
On va écouter quelques réactions de Français qui ont été recueillies par les équipes de CNews. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bon sens et que tout est assez tempéré dans ce qu'ils disent. Écoutez.
Normalement, il devrait aussi soutenir aussi ses collègues pour tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment de prendre des vacances. C'est une maladresse.
C'est plus qu'une maladresse. Je me suis dit que son poste, ce n'était pas d'aller à Ibiza, d'être présent dans les écoles au moment de la rentrée, avec tout ce qui se passe actuellement.
Maintenant, on travaille à distance. Je vois pas où est le problème. Les communications sont faciles.
Les gens font du télétravail. On peut travailler à distance, avoir des résultats à distance, etc. Moi, qu'il soit à Ibiza, qu'il soit à Paris Watt, je m'en fous.
Tant qu'il était au travail, en soi, je vois pas bien où pourrait être le problème.
Voilà, fin de la polémique. Jean Garrigue.
Ça fait plaisir justement qu'il y ait des réactions de bon sens comme ça. J'ajouterais quelque chose pour connaître un peu ce milieu, avoir beaucoup d'amis, de relations qui sont des enseignants, y compris dans le primaire et le secondaire. Moi, je suis un universitaire. Il y a une hystérisation des enjeux en ce moment, et de l'affront des enseignants, etc. C'est pas tout à fait comme les syndicats nous le présentent. Hein. Il faut quand même raison garder. Et je le répète, sur les raisons de cette grogne, de cette désorganisation, de cette inefficacité du système scolaire français, je crois que tout le monde devrait faire son mea culpa. Je veux dire, pas seulement le ministre, mais l'administration notamment de l'éducation nationale.
Le mammouth, vous voulez dire ?
Le mammouth, exactement. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Mm-hmm. Il est largement responsable de ce qui se passe. J'en ai des preuves tous les jours. Ça, c'est un vrai enjeu. Moi, j'espère que dans la campagne, on pourra parler de ce...
Ah, mais
de
les candidats en parlent, Valérie Pécresse en parle, Marine Le Pen en parle.
Et ça fait partie, je pense, vraiment des beaux enjeux de cette campagne. Et ce ne résoudront pas uniquement, là encore, comme les syndicats ou certains candidats de la gauche veulent trouver des solutions simplistes qui sont tout simplement
plus de profs, augmentation des salaires. Mais il y a des vraies revendications sur les salaires aussi.
Il y en a, parce que c'est vrai que les enseignants français sont en dessous du niveau des Allemands, des Britanniques, voire même des, non pas des Italiens, mais d'autres pays européens.
Non.
Et c'est un problème. C'est un problème.
Le salaire moyen est de 2500 euros pour un professeur des élèves.
Mm-hmm. Faut peut-être des écoles,
penser,
peut-être.
Des écoles, pardon. Mm-hmm. Peut-être penser, effectivement, mais il y a eu des efforts de fait. Mais pour voir dans quel état financier on est, et tout ça s'enchaîne et est lié. Je veux dire, c'est pas les économies qu'il faut faire et les contradictions que ça comporte, parce qu'il y a des gens qu'il faut augmenter, il y a des professionnels qu'il faut embaucher. Donc le prochain président ne manquera pas de matière importante et d'action capitale pour le futur de ce pays.
Ou présidente.
Ou présidente. Allez, on fait une petite pause. On va parler d'un autre sujet de préoccupation principale pour les Français. C'est le pouvoir d'achat avec cette explosion des prix du carburant qui, évidemment, impacte énormément ce qu'il leur reste dans le portefeuille à la fin du mois. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dassier, Jean Garrigue, Maître Golnadel, Maître Thibault de Montbrial. On va parler des hausses des prix des carburants à la pompe. C'est une véritable explosion. On est quasiment au niveau du début du mouvement de grogne des gilets jaunes, de colère même. Évidemment, ça inquiète au plus haut niveau les Français parce que c'est leur pouvoir d'achat qui, évidemment, est impacté. Jeanne Cancard, notre envoyée spéciale, se trouve dans une station service. Jeanne, avec Sacha Robin, comment se traduit concrètement la hausse des carburants à la pompe?
Eh bien Laurence, pour vous illustrer concrètement cette augmentation des tarifs des carburants, on a sorti la calculatrice. Par exemple, l'été dernier, pour 1 litre de gasoil, eh bien, il fallait débourser 1,45€. Si on multiplie par exemple par 50 litres pour faire un plein, on arrive à un total de 72,50€. Et regardez aujourd'hui par exemple, dans cette station-service où nous nous trouvons, le prix du gasoil, donc du diesel, est affiché à plus d'1,67€. Vous multipliez une nouvelle fois par 50 litres et là cette fois-ci on arrive à 83,50€, donc plus de 10€ d'écart en seulement quelques mois. Une augmentation qui n'a évidemment pas échappé aux automobilistes que nous avons rencontrés. Écoutez,
on est en train de perdre du pouvoir d'achat surtout. Hein. Tous les jours, on va faire les courses, on s'en sort pour... avant c'était 100€, maintenant c'est 150, bientôt ça va être 200, on n'arrête plus quoi.
Je me souviens avant le Covid, je pouvais faire un plein avec 70€ ou même, oui c'est ça, 75€. Maintenant, mon plein, moi, il va faire 85-90€. Hein.
Je suis venue ici parce qu'il est bien connu que cette station, comme celle d'en face, qui pratique les mêmes prix, sont les moins chères de tout l'environnement. Et c'est quand même important au jour où nous sommes.
C'est pas évident, mais voilà. Après, quand on n'a pas le choix d'y aller travailler, voilà, moi j'envisage une autre alternative, peut-être passer à l'électrique ou autre. Mais aujourd'hui, avec une augmentation pareille qui n'arrête pas d'augmenter, c'est énorme.
Alors, comment expliquer cette inflation? Eh bien, par une raison très simple, la demande internationale est très élevée, alors que l'offre des pays pétroliers, elle, est beaucoup plus limitée. Les automobilistes que nous rencontrons aujourd'hui à ces stations-service nous expliquent, eh bien, qu'ils espèrent que l'État va bloquer les prix à la pompe. Mais pour l'instant, le gouvernement, eh bien, estime avoir rempli sa part du contrat en distribuant des millions de chèques énergie à hauteur de 100 euros par mois.
Merci beaucoup Jeanne Concaré et Sacha Robin. Et ce qui donne le vertige, Thibault de Montbrial, c'est que ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire ça peut continuer à augmenter comme ça, semaine après semaine.
Et ce qui donne encore plus le vertige, c'est qu'il faut combiner la préoccupation que génère cette hausse des prix du carburant avec la hausse des prix des matières premières par ailleurs, qui commence à avoir un impact terrible sur le terrain industriel et économique en général. Et on peut tout à fait avoir dans les mois qui viennent une très très mauvaise surprise avec notamment des certains produits qui risquent de venir à manquer. Et je pense que cette problématique que les gens ressentent, puisque la plupart des gens utilisent leur voiture, est une problématique qui va devenir centrale dans la campagne. Il faut remarquer que Emmanuel Macron, dans ce domaine comme dans d'autres, a fait beaucoup de cadeaux et lâché des chèques depuis quelques mois. Mais il y a un moment, il va plus pouvoir le faire et cette augmentation des prix va finir par se faire ressentir de façon tangible par les électeurs. C'est un mauvais timing pour le président.
Jean-Garic, j'évoquais le début de l'épisode des Gilets jaunes. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances aujourd'hui. On ne pourrait pas imaginer la même flambée de colère liée au prix de l'essence.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'histoire ne repasse jamais tout à fait les mêmes plats, mais aussi parce que c'est une décision du pouvoir qui avait engendré la révolte des Gilets jaunes, qui était l'aboutissement de frustration, d'un mécontentement social en profondeur. Ce mécontentement, il est toujours là, mais la conjoncture n'est pas tout à fait la même. La pandémie occupe les esprits, l'élection présidentielle arrive. Donc le contexte est différent, mais c'est vrai que là, il y a un sujet, il y a quelque chose qui va ne pas manquer d'être exploité par les uns et les autres. On sait que la fiscalité de l'État joue une place énorme dans le prix.
67% du prix du carburant.
67%. Donc évidemment, le pouvoir est interpellé. Et il y a les éléments potentiels d'une effervescence sociale. Je ne crois pas, mais je ne suis pas devin, je ne crois pas à une crise similaire à celle des Gilets jaunes. Mais ça va certainement poser problème dans les semaines qui viennent.
Si on additionne tout, Jean-Claude, la pandémie, la lassitude, polémiques, le prix du carburant...
La pandémie, ça a coûté plus de 200 milliards, 210 ou 220, c'est dans le budget, ça va étaler sur plusieurs années pour être remboursé. Mais là, on peut s'interroger sur l'État nounou, mais on a au fond que ce qu'on mérite, puisqu'on se tourne toujours vers l'État pour exiger le service, l'aide, l'argent quand on en a besoin. Sur l'essence, on peut demander à l'État de baisser, par exemple, l'énormité de son pourcentage de taxes. Mais c'est très compliqué, ça donne pas toujours les résultats escomptés. On est face à une vague d'inflation, vous l'avez dit, vous avez raison, qui ne va pas concerner que le pétrole. Mais le pétrole, ça peut durer encore longtemps. Mais l'inflation, elle est partout et elle va probablement impacter beaucoup le pouvoir d'achat des Français. C'est vrai qu'à 2 mois ou 3 mois des élections, c'est toujours préoccupant pour le président sortant. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de chèques. On a oublié, mais là, il vient de redonner quelques dizaines de millions aux régions pour qu'elles achètent des capteurs de CO2. Pourquoi pas? On a oublié, mais il a donné il a même donné 53 millions aux réparateurs de vélos pour faire réparer les bicyclettes. Et si on fait le bilan, j'en oublie beaucoup, des choses plus sérieuses que ce que je viens de dire, si on fait le bilan de tous les chèques que le pouvoir a fait pour essayer de calmer les inquiétudes, voire les revendications des Français, ça va commencer à faire beaucoup d'argent. Quoi qu'il en coûte, c'est pas non plus la solution. Simplement, la solution, ce serait effectivement, et c'est le cas à l'heure actuelle, que l'économie reparte, qu'on recrée de la richesse, que les entreprises se portent de mieux en mieux, mais en période électorale, c'est pas un discours qu'il faut tenir trop fort, parce que c'est pas trop bien vu dans notre chère France.
Il a cramé la caisse, c'est pas Philippe Lebel et sa fausse monnaie, c'est Emmanuel Lebel. C'est il a créé de la fausse monnaie, c'est à la portée de n'importe qui, mais on paiera l'addition.
Tous les pays ont fait la même chose, cher ami.
Plus encore la France est encore plus forte que les autres en matière de dette, et alors qu'elle était déjà endettée, et qu'on devait se désendetter, mais... pour revenir sur le sujet de l'énergie, et pas exactement sur l'essence, mais le prix du gaz et d'électricité, c'est bien la conséquence du fait qu'on a tué le nucléaire. Si on n'avait pas supprimé les Fessenheim, par exemple, vous vous rendez compte qu'on est obligé maintenant d'importer du gaz de Russie, et le prix de l'électricité, et l'électricité, il peut y avoir même des pannes d'électricité.
Mmh. Ça, des pénuries.
Et même maintenant, les écolos qui tapaient sur le nucléaire sont beaucoup plus modérés. Monsieur Mélenchon, on est à vouloir créer des éoliennes. C'est la résultante de l'idéologie écolo-gauchiste que l'on paye maintenant sonnant et trébuchant.
Alors, sur les énergies fossiles, ce n'est pas le cas, mais il faut sortir de cette dépendance petit à petit aux énergies fossiles.
Oui, enfin, écoutez-moi.
Je vais poser une question.
Non, il faut revenir au nucléaire.
Ah oui.
Le débat c'était élargi sur le coût de l'énergie et sur la dette. Je vous dis que d'ailleurs c'est même pire que ça, les écolos ont, si j'ose dire, carbonisé la France, et je vous parle pas de l'Allemagne. C'est même sur le plan écologique, c'est un désastre. On paye l'idéologie.
Alors, c'est Jean-Claude, sur le nucléaire.
J'ai oublié tout à l'heure de dire que dans ces augmentations générales, il y en avait une terrible qui s'annonçait comme terrible, c'était celle de l'électricité. Oui. Avec un tarif européen que j'ai du mal à expliquer. Parce qu'on fabrique, nous, avec le nucléaire, même s'il y en a 13 à l'heure actuelle centrales qui sont en arrêt de maintenance, on fabrique quand même une électricité. C'est un des grands succès de la France, qui est relativement bon marché. Mais on a une espèce de mutualisation des coûts avec l'Europe, à laquelle je ne comprends rien, mais qui fait que les Français supporte les inconvénients, entre guillemets, du nucléaire et paye quand même plus cher qu'il ne le devrait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait à une augmentation. On ne s'attendait pas. Il était dans les tuyaux une augmentation de l'électricité de 30 à 40%. Monsieur le Premier ministre a dit non. 4% seulement. Ça veut dire que ça va coûter 8 milliards, d'après les comptes qui ont été faits par les spécialistes, 8 milliards un peu plus à l'EDF. Donc, quelque part, il faudra bien payer, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien payer cette absence de recettes que l'on inflige à nos amis d'EDF. On est dans une situation qui est extrêmement difficile. Le prochain président, je le répète, aura du pain sur la planche.
Mais Jean-Claude, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, là encore, sur cette question précise du prix de l'électricité, c'est la poussière dans le tiroir. Et on ferme le tiroir. Et c'est le prochain ou la prochaine présidente qui sera chargée d'ouvrir le tiroir. Donc, le président Macron, s'il est réélu, il ouvrira le tiroir dans lequel il a mis la poussière, mais il aura 5 ans tranquille. Enfin, tranquille, je ne suis pas sûr, mais il aura 5 ans. Mais si c'est Valérie Pécresse qui gagne, elle héritera du tiroir qui est plein de poussière et de la caisse qui est vide à cause des aides dont on vient de parler.
Il faudra qu'elle sache prendre des mesures impopulaires.
Jean-Garry, un dernier mot.
La grande tradition de la 5e République.
Oui, mais à ce point-là, je crois que c'est inédit.
Là, on est un peu
à ce point-là. Je ne sais pas.
1000 milliards de dettes, ça commence à faire beaucoup.
En tout cas, ce qui est sûr, oui, on est d'accord, le coûte que coûte, ça coûte cher, mais ce qui est sûr, c'est que le pouvoir d'achat, c'est une variable importante dans une élection présidentielle, c'est peut-être même le ski compte le plus. Alors, ils vont être vigilants là-dessus.
On a parlé d'éducation, on a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé un peu de sécurité, évidemment, parce que vous êtes conseiller de Valérie Pécresse, Thibault de Montréal, sur ces sujets. Marseille, une nouvelle fusillade, un mort, 29 ans, très connu des services de police, visiblement un règlement de compte entre trafiquants de stupéfiants. On a l'impression que l'action des policiers, qui est réelle, parce qu'ils y vont, ils interviennent, et en fait, elle n'a aucun impact sur ces règlements de compte, que c'est leur loi, la loi des gangs qui règne.
Alors, pour tout un tas de raisons dont on parle régulièrement, et notamment dans votre émission, mais il y a une raison particulière dont on peut parler aussi, qu'on souligne peut-être moins, c'est que quand les policiers de police judiciaire sont chargés d'enquêter sur des meurtres au sein du milieu, les gens ne coopèrent pas. C'est-à-dire que si la victime est meurte, son entourage ne va pas donner d'éléments. Si la victime est blessée, ce qui arrive parfois, elle refuse quasiment de livrer des indications qui pourraient conduire à retrouver ces agresseurs, sachant qu'en général, elle préfère régler le problème elle-même en marge de la règle judiciaire. Et puis, ces cités qui sont des zones où la police ou la gendarmerie ne vont plus, ou alors que très exceptionnellement et en grand équipage et en restant le moins longtemps possible, qui sont des endroits où il y a des caches d'armes phénoménales et où chaque gang peut puiser de l'armement de guerre pour mener à bien ses opérations contre le gang d'en face, avec une souveraineté nationale qui regarde ça de loin.
Maître Gonadel.
Non, j'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être excellemment dit, sinon que, C'est pas un policier, c'est pas un innocent, donc mon stock compassionnel est trop limité pour que je m'arrête.
Mais sur la loi des gangs, en fait, qui s'exerce comme ça, dans la rue, tranquillement.
Non, mais je vois pas. Rien
de nouveau sous le soleil.
Rien ne peut les arrêter. Mm-hmm. Non. Mais enfin, je pense pas, en France, sincèrement, que les policiers marseillais soient en grand deuil.
Non, Jean Garrigue.
Je suis surpris que Gilles William ne réagisse pas, parce qu'au fond, c'est, ce qui se passe dans ce domaine de la sécurité est assez similaire à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'énergie. Je veux dire qu'on est en train de payer, là aussi, 30 ans de cécité et d'erreurs idéologiques.
Bon,
à force de traiter le problème de la sécurité comme un problème avant tout social, sociologique, voire anthropologique, on a laissé passer tout ce qui...
Marseille, c'est extrêmement complexe, mais c'est le fruit, vous l'avez dit Jean, et vous avez raison, de 30 ans au minimum de pusillanimité de laisser aller, et c'est le fruit d'une immigration non maîtrisée, alors, il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est le fruit d'une immigration non maîtrisée, d'une ghettoisation qui est la conséquence de cette immigration non maîtrisée, et d'un manque de courage politique, puisque la solution, il faut être modeste, mais le début de solution ne peut passer que par une reprise en main de l'État, et par des opérations qui impliqueront nécessairement de la violence, et donc il faut que le prochain ou la prochaine présidente assume des opérations qui, et en soutenant ces policiers, par la chaîne du ministère de l'Intérieur et du préfet, par la chaîne du garde des Sceaux et des procureurs, en soutenant ces policiers et ces gendarmes, et en assumant le recours à la violence légitime. Vous savez, les voyous...
On parle de la violence légitime
dans le cadre du respect de la loi. Mais les voyous, ce sont des gens, ce sont des êtres humains comme les autres. S'ils se mettent à avoir peur, ils vont opérer différemment ou partir, mais ils vont pas rester. Et si tout à coup, ce qu'ils faisaient dans l'impunité totale se transforme en une activité où ils peuvent être tués ou blessés beaucoup plus, et ou en tout cas interpellés et prendre des années de prison avec beaucoup plus de certitude, de toute façon, ça va changer. Mais par ailleurs, il faut régler aussi la question de l'immigration, et en particulier de l'immigration clandestine.
Et on va en parler dans un instant, parce que c'est le sujet de ce qui va se passer demain à Strasbourg et le discours d'Emmanuel Macron sur la politique migratoire. Jean-Claude Dacier, sur la sécurité, non, rien de spécial à rajouter?
Non, si ce n'est que je suis convaincu, mais je peux me tromper, que l'immigration et le lien que certains candidats font avec l'insécurité, mais que tous ou toutes ne font pas...
Valérie Pécresse l'a fait dans son discours de Cameroun expressément.
...sera, à mon avis, au centre de la prochaine campagne présidentielle. Il y a ceux qui, en effet, auront le courage de dire que l'immigration dans ce pays, c'est n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'ailleurs de politique de l'immigration, qu'elle est sauvage, que chacun fait à peu près ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Le gouvernement fait de manière insuffisante, probablement parce qu'il est débordé par une immigration non contrôlée, et ensuite il essaie de boucher les trous avec des rustines qui ne vont pas apparaître comme suffisantes pour le prochain président. C'est un vaste débat, il y aura sûrement d'autres sujets, le pouvoir d'achat, tu en parlais à l'évidence, mais je pense que le lien entre immigration et insécurité est au cœur de la prochaine campagne.
Juste un mot sur le discours de Cavaillon de Valérie Pécresse. Le soir où elle l'a prononcé, j'étais ici même. Et comme elle avait parlé de Karcher, on n'a parlé que de Karcher. Et du coup, on n'a pas regardé, on n'a pas analysé le fond du discours. Mais ce discours est un discours important dans la campagne de Valérie Pécresse. Parce qu'elle y a dit un certain nombre de choses, fait un certain nombre de constats, et notamment prononcé la phrase, ouvrez les guillemets, il y a évidemment un lien entre l'immigration et l'insécurité. Et elle l'a martelé. Et ensuite, proposé un certain nombre de solutions. Mais donc, sur ces constats, de même que sur les solutions que nous proposons, Valérie Pécresse, ça n'allait pas dans le déni.
Jean Garrigue.
Non, mais à mon sens, mais c'est intéressant ce que dit Thibault, parce que c'est précisément la manière dont ce débat a été faussé et exploité et je dirais presque immobilisé depuis des années, parce que, justement, pour une expression comme Karcher, forcément, vous donnez du grain à moudre à ceux qui sont au contraire dans une victimisation, dans une gestion sociale et je dirais presque victimaire de ces problèmes d'insécurité, victimaire au sens des coupables qui deviennent des victimes. Donc il faut faire très attention quand on manie ces concepts, la manière, me semble-t-il, dans cette campagne dont Éric Zemmour les manie, en parlant de reconquête, etc., ne fait qu'obscurcir, si vous voulez, la nature du débat. Je crois qu'il faut être très prudent dans... dans les mots qu'on emploie, ne serait-ce que pour arriver à convaincre la majorité des Français, qui, à mon avis, ne demandent que ça, de la nécessité d'une politique plus autoritaire, plus répressive vis-à-vis de ceux qui engendrent l'insécurité.
Mais vous n'êtes pas d'accord, Maître Golnadel ?
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que, d'abord, non, je ne suis pas d'accord parce que, d'abord, je crois que sur le plan intellectuel, sur le plan politique, cette bataille-là, elle était gagnée. Plus personne maintenant ne pâtit de ce que on puisse lier insécurité et immigration massive, excessive ou illégale. Et donc, mesurer au trébuchet ces mots ne cause plus. Si j'ai quelque chose à reprocher à Valérie Pécresse, c'est certainement pas le fait qu'elle ait parlé de Karcher en tant que tel, mais c'est le fait que c'était une référence, c'est une faute psychologique, parce que le Karcher est le symbole même de l'écart fantastique entre le dit et le fait tel qu'on l'a. Bon, donc je pense que cette référence au non mais je sais bien Thibault, mais je sais bien, mais cette référence n'était pas mais sur le fond, bon, alors certes Marine Le Pen a l'avantage de dire ces choses-là depuis longtemps, et elle a payé sonnant et trébuchant le fait de l'avoir dit même trop tôt. Mais maintenant, moi, je me félicite.
Elle a toujours voté les lois qui pouvaient aller dans
le sens. Je veux simplement dire que quel que soit celui ou celle qui l'emportera, si ça n'est pas le pouvoir en place, je pense que cette bataille est gagnée. Maintenant, personnellement, je ne crois pas du tout en la solution européenne. Donc,
justement, on va parler de l'Europe, on va parler de la question migratoire, parce que ce sera le cœur du discours d'Emmanuel Macron demain au Parlement. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Jean-Claude Dacier est là, Jean Garrigue, Maître Golnadel et Thibault de Montbrial, conseiller régalien pour les questions évidemment de sécurité de Valérie Pécresse. Demain, Emmanuel Macron va se rendre à Strasbourg. Il va inaugurer la présidence française de l'Europe avec un grand discours. Il y aura d'ailleurs un débat dans le Parlement européen. Et puis on s'aperçoit que nombre des candidats à la présidentielle vont eux aussi parler beaucoup de l'Europe. C'est ça, Loïc Sinan, vous êtes sur place avec Olivier Gangloff.
Emmanuel Macron vient à Strasbourg et ce sont tous les candidats à l'élection présidentielle, ou presque, qui se mettent à parler d'Europe. Conférence de presse aujourd'hui de Marine Le Pen. Plus question pour elle de sortir de l'Union ou d'abandonner l'euro. La candidate cherche une crédibilité sur ce thème pour solder l'échec de 2017. Elle veut désormais, comme ses alliés polonais ou hongrois, être un poil à gratter dans les 27 et casser autant que possible les consensus. Première priorité, bien sûr, l'immigration. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi convié les caméras cet après-midi à Strasbourg. Une stratégie pour le candidat insoumis. L'insoumission, rapport de force permanent, blocage assumé et désobéissance aux règles de Bruxelles. Demain, c'est un autre candidat qui affrontera lui directement le président sortant dans l'hémicycle. Yannick Jadot a pour cela négocié en interne le tour de parole normalement réservé au président du groupe écologiste. Il aura 5 minutes sur les 8 accordées aux Verts pour exposer son contre-projet européen. Du point de vue de l'Elysée, ça montre, je cite, leur rétrécissement, tapé sur l'Europe. On l'a vu avec la polémique sur le drapeau, dit-il, ça plaît peu aux Français. Il tombe dans un piège facile, conclut ce proche du président qui aura de son côté 3 heures pour exposer ses priorités devant les députés avant de tenir, lui aussi, une conférence de presse. Pour Macron, l'Europe, c'est fromage et dessert.
Merci Loïc Signor avec Olivier Gangloff à Strasbourg. Thibault de Montbrial, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y aura évidemment la question de la souveraineté européenne et la question de migratoire avec la réforme de l'espace Schengen. Qu'est-ce que peut faire le président? Qu'est-ce qu'il peut proposer pour arriver à empêcher ce qu'il souhaite, c'est-à-dire les flux migratoires non désirés?
Ah, moi, je ne sais pas ce que le président peut faire, mais je sais ce que Valérie Pécresse veut faire.
Non, mais alors, qu'est-ce qui fonctionnerait
aujourd'hui, on constate déjà que les frontières de l'Europe sont complètement poreuses. C'est-à-dire que les gens qui se donnent un petit peu de mal, avec l'aide de passeurs et avec l'aide d'associations dont je préconise depuis des années qu'on cesse de leur donner des subventions et qu'on criminalise leur action, eh bien font entrer des gens en Europe de façon clandestine à différents endroits. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont allés ce week-end en Grèce. Et la Grèce a complètement changé sa manière de travailler avec un gouvernement de droite qui a mis en place des centres fermés pour héberger dans des conditions évidemment de dignité totale, avec accès non seulement aux soins, ce qui est une évidence, mais aux moyens de communication, au téléphone, etc. Mais pour garder les demandeurs d'asile le temps que leur demande soit examinée et pour évidemment les avoir sous la main si d'aventure leur demande d'asile était rejetée. Ensuite, il faut que les pays, et en particulier la France, aient des relations bilatérales extrêmement fermes avec les pays d'origine et que nous cessions de délivrer des visas si les pays refusent
mais
de reprendre leurs gens.
Mais c'est le cas, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, vous êtes au courant, ça n'a eu aucun effet.
Bah, après, il y a ces, je sais pas comment
réduction
Gérald
de moitié des visas, zéro expulsion.
De réduction de moitié, déjà, c'est pas réduction totale. Je pense qu'il faut renverser la table sur ces questions et que on peut pas continuer à faire du en même temps. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il faut être extrêmement ferme. Il faut commencer par dire que l'immigration non maîtrisée est une plaie et c'est une plaie qui peut être mortelle pour l'Europe. C'est mortel sur le plan culturel, c'est mortel sur le plan de l'islamisme, c'est mortel sur le plan d'une forme de délinquance qui a explosé depuis 6 ou 7 ans dans des pays comme bien sûr en France, mais aussi en Italie, en Suède, etc. On le sait tout ça. On le dit pas forcément, mais on le sait. Donc, la dernière chance de l'Europe, sur les années qui viennent, c'est de se mettre d'accord sur des questions de souveraineté qui doivent être des questions de souveraineté traitées drastiquement. Et il faut complètement changer la manière de voir les choses.
Vous pensez qu'à 27, on peut se mettre d'accord sur des questions aussi importantes ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui...
C'est mission impossible ?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et qu'à terme, il faut repenser l'organisation européenne. Je pense qu'on
ne pourra pas... Mais qu'il n'y aura pas plusieurs vitesses.
Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie à titre personnel.
Maître Golnadel, sur ces questions migratoires.
Écoutez, je n'ai jamais cru aux accords de Schengen. Et les accords de Schengen ont eu comme conséquence de tuer nos frontières et plus personne ne protège l'Europe, donc plus personne ne protège la France. Je ne crois pas du tout d'ailleurs à un peuple européen. Je comprends ce que dit Marine Le Pen, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son analyse. Nous sommes trahis, si vous voulez, de l'extérieur et de l'intérieur. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France lorsque la France expulse un terroriste algérien, pas du tout français, un terroriste algérien condamné pour le renvoyer en Algérie sous prétexte qu'il serait peut-être dangereux, en danger en Algérie, on est obligé de le garder en France. Autrement dit, on préfère protéger la sécurité d'un terroriste algérien plutôt de la sécurité des innocents français. Et comme si ça ne suffisait pas à notre malheur et à notre détresse, vous avez un conseil constitutionnel qui, en France, considère que Cédric Héroux, qui va chercher...
Un militant, effectivement, du sud de la France.
Qui va chercher des immigrants illégaux de l'autre côté de la montagne, lui n'est pas condamné, alors qu'on condamne les identitaires lorsqu'ils manifestent de manière symbolique. Si on ne voit pas que nous construisons notre tombe avec nos propres pelles, on ne voit rien du tout.
Jean Garrigue, une vision peut-être plus nuancée ?
Mais elle est tout à fait nuancée, malheureusement.
Un tout petit peu différente, en tout cas... Bon, là, sur la notion de peuple européen, on peut discuter. Moi, j'ai une certitude, mais je la partage avec beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, il faut repenser l'organisation de l'Europe et qu'on peut pas fonctionner à 27. Il faut revenir à des cercles. Il y a un cercle de base qui devrait décider, y compris d'ailleurs le salaire minimum européen, par exemple, puisque c'était un des projets d'Emmanuel Macron. Et qu'on ne résoudra pas les problèmes majeurs qui se posent, que ça soit en termes de sécurité extérieure, d'immigration, etc., si l'impulsion ne vient pas de ce premier cercle. C'est tout un travail. Je ne sais pas où en est la diplomatie française par rapport à ça. C'est une idée qui tourne depuis des années, et que je ne vois pas mettre en œuvre. Je me souviens que quelqu'un comme Éric Woerth, par exemple,
Valéry Giscard d'Estaing l'a
prôné. C'est fondamental par rapport au fonctionnement actuel de l'Europe, quand on voit comment ça fonctionne. Alors après, sur les problèmes spécifiques, c'est vrai que Schengen ne fonctionne pas, ce que disaient Thibault et Gilles William, c'est tout à fait vrai, il faut absolument là-dessus changer de braquet. Mais je le répète, j'ai l'impression que rien ne se fera si on ne commence pas par donner cette impulsion, par reconstruire l'Europe. Moi, je suis pour ceux qui veulent plus d'Europe. Parce que l'Europe, elle nous a apporté, par exemple, ce grand plan d'investissement pour sortir de la crise pandémique. Donc, je pense qu'il faut plus d'Europe. Mais mieux d'Europe. Mieux d'Europe et une Europe construite de manière totalement différente. Si on veut convaincre les Français que ça sert à quelque chose, construisons-la différemment.
On va écouter Marine Le Pen parce qu'elle s'est effectivement exprimée aujourd'hui sur sa vision de l'Europe et notamment en mettant dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Écoutez-la.
Que les choses soient claires, tant pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse, il n'y a pas et il n'y aura jamais de souveraineté européenne car il n'y a pas de peuple européen. Défendre l'idée de souveraineté européenne, comme le font les jumeaux Macron-Pécresse, me paraît en outre totalement incompatible avec la fonction présidentielle gravée dans le marbre de notre Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale. Et le positionnement du drapeau européen seul à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe était à ce titre non pas une erreur de communication, mais un aveu édifiant.
Voilà, les jumeaux Macron-Pécresse, Thibault de Montbréal, oui, vous qui soutenez Valérie Pécresse.
Mais oui, mais il faut comprendre pourquoi Marine Le Pen dit ça. Marine Le Pen, il y a quelques mois, était absolument persuadée d'arriver tranquillement au deuxième tour et préparait sa revanche. Donc là, la situation est complètement différente. Elle est mise en difficulté par le fait qu'elle a une candidate LR, qui est Valérie Pécresse, qui a une vraie chance de la battre. Un candidat Éric Zemmour, qui n'était pas du tout prévu au programme et qui l'affaiblit également. Et donc, elle ne peut que dire que Pécresse et Macron sont des jumeaux. Mais quand on regarde, c'est pas vrai du tout. Et pour finir sur Marine Le Pen, sans rentrer à nouveau sur les différences de mesures entre Valérie Pécresse et ce qui a été fait ou plutôt pas fait par Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, il faut quand même rappeler, et Jean l'a fait tout à l'heure, c'est que Marine Le Pen, elle dit la même chose depuis des années, et que depuis des années, que ce soit au Parlement européen à Strasbourg ou que ce soit au Parlement français à Paris, n'a jamais voté les textes qui sont les textes régaliens et qui permettent de faire des pas peut-être insuffisants, mais en tout cas dans la bonne direction. Donc Marine Le Pen est dans une logique protestataire, elle en fait son commerce, elle espère convaincre, mais ce n'est pas un parti, ce n'est pas un parti qui jusqu'à maintenant a exercé son rôle d'opposant en responsabilité sur ces questions cruciales.
Il n'y a pas de peuple européen, disait Marine Le Pen.
Oui, mais ça j'y souscris tout à fait, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'idée européenne, ce sont des peuples polyglottes, je me sens aussi proche d'un Brésilien que d'un Allemand, pardon, y compris en matière footballistique, et je crois que je ne suis pas le seul de ce point de vue-là, mais en dehors, je veux dire, plus sérieusement,
il y a une idée européenne, il y a des valeurs.
Avant d'avoir été interrompu grossièrement par monsieur...
Victor Hugo.
Non, mais en dehors du procès en gémellité diligenté par Marine Le Pen, je ne veux pas me prononcer sur l'ADN de Macron et de Madame Pécresse, mais une chose est certaine, là où elle a raison, là où Monsieur Macron est tout à fait, je crois, dans sa sincérité, c'est le seul domaine peut-être où je crois dans sa sincérité totale, c'est en tant qu'Européen. C'est un Européen, pour ne pas dire européiste, convaincu, et c'est vrai que l'incident du drapeau, ça n'est pas vraiment un incident.
C'est pas hasard.
C'est une différence entre Macron et Pécresse. Sur le drapeau, c'est
Jean, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est bon, Jean.
Je voulais juste dire que la question de la souveraineté européenne n'est jamais exclusive de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que les Européens, et moi je suis européiste, voilà, donc je l'assume, les européistes comme moi, les méchants européistes comme moi, qui sont responsables de tout ce qu'il y a de mal en France, eh bien ne contestent en rien la souveraineté nationale. Toute l'histoire des Européens, c'est une histoire de patriotes. Victor Hugo a été un grand patriote. Les résistants de 1945, ceux qui font le manifeste de l'Union européenne, qui voulaient des États-Unis d'Europe, c'était les plus patriotes des patriotes. Alors, il ne faut pas opposer le patriotisme national et la souveraineté européenne.
Le problème, Jean, vous avez raison. Vous avez raison, historiquement. La question, c'est que c'était il y a 80 ans, ça fait 3 générations. Qu'est-ce que c'est devenu ? Le projet est totalement parti en toupie. C'est ça le problème.
Les Français... on attend des doutes sur l'efficacité et l'avenir de l'Europe. On est plus, à mon avis, menacé d'éclatement de l'Europe que d'autre chose. Et je trouve que le départ de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, le Brexit, c'est pas rien quand même.
Ils n'ont jamais été européens.
Non mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont partis quand même. Et qu'il y a un certain nombre de pays qui ne partagent pas la souveraineté européenne est un leurre. Tu vas pas demander à des Polonais, à des Hongrois, à des Belges, à des Danois, ça n'existe pas. Nous sommes des vieilles nations. Les Français ont vu l'idée européenne il y a quelques années avec beaucoup de séduction, beaucoup d'intérêt. Ils en attendaient une amélioration de leur situation. Ils ont une concurrence. Ils ont une concurrence qui parfois leur échappe. Ils en attendaient une Europe puissance. Ils n'ont rien.
Il faut la reconstruire.
Oui, alors voilà. L'Europe d'aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve que la position. Je pense qu'il n'y a pas un candidat à la prochaine présidentielle, y compris Macron, qui gagnera une voix en défendant l'Europe européiste et souverainiste comme il le souhaite. Pas souverainiste, fédéraliste, pardon. Fédéraliste, pardon. Excusez-moi de ce lapsus. Je pense que il aura le grand mérite d'essayer d'expliquer que l'Europe, c'est notre avenir. Oui, sans doute, peut-être, à condition d'en changer les règles. Au jour d'aujourd'hui, même si les règles d'unanimité, je le sais, dans beaucoup de domaines ont été oubliées, différentes, et qu'on peut éventuellement, avec beaucoup d'heures de négociations, se mettre à peu près d'accord, l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est dans une impasse, on le veuille ou non. Je pense que, et Marine Le Pen, et Zemmour, en réalité, il n'accepte pas du tout le fonctionnement de l'Europe tel qu'on la voit fonctionner aujourd'hui. En revanche, ils vont se heurter sans aucun doute à un président de la République sortant qui, lui, va défendre l'idée européenne et la souveraineté et l'européisme.
Juste un mot, il n'y a pas que les règles de majeur. Il n'y a pas que la règle de l'unanimité qui plombe l'Europe. Il y a aussi des visions. Quand on voit qu'un certain nombre de pays, au moment de la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, un certain nombre de pays étaient contre le fait de soutenir la Pologne. Or, qu'on le veuille ou non.
Qui a envoyé des soldats?
Qu'on le veuille ou non.
La Grande-Bretagne.
Absolument, vous avez raison, Laurence. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nos frontières, ce sont les frontières aux limites de l'Europe. Donc c'est la frontière polonaise, donc c'est la frontière grecque, donc c'est la frontière italienne. Et on peut pas faire comme si c'est loin, c'est là-bas, et puis il faut les laisser, et puis attention, les méchants. Non, nos intérêts vitaux sont aux frontières de l'Europe. Moi, je pense qu'il faut changer l'organisation européenne. C'est un vaste programme. Par pragmatisme, il faut au moins avoir la lucidité de comprendre que nous avons un intérêt de souveraineté commun, et que cet intérêt de souveraineté commun, c'est que les gens qui rentrent en Pologne, c'est comme s'ils rentraient en France.
Un dernier mot, Maître Grenadel, en une minute.
Il y a eu une véritable... Je veux bien croire que l'européiste Garrigue soit aussi européen que français, mais il y a eu une dérive. Il y a eu une véritable dérive impériale qui s'est faite au détriment de l'État-nation français, et les Français avaient refusé la Constitution européenne et on leur a imposé. Et ils ne le pardonnent pas.
C'est sur le financement de la crise. Incontestablement, grâce à l'euro et la Banque Centrale Européenne, on s'en est à peu près sorti. Il va falloir rembourser.
Il n'y a pas que l'argent.
Ça, c'est vrai.
Il n'y a pas que l'argent.
Contrairement à ce que disait Marx, non seulement les prolétaires ont une patrie, mais ils n'ont même souvent que ça.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info sur CNews. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Amine El-Khatmi. Bonsoir.
Bonsoir.
Président du Printemps Républicain, ravi de vous retrouver. Guylaine Ottenheimer est là, bonsoir. Bonsoir. Challenge et Louis Hausselter de Marianne.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Louis. Allez, on va parler de la polémique du jour. Jean-Michel Blanquer face aux députés à l'Assemblée nationale qui réclamait à corps et à cri, en tout cas pour l'opposition, sa démission, après que la destination de ses vacances ait été révélée. Il s'agissait d'Ibiza. Écoutez, voilà, le mea culpa du ministre de l'Éducation nationale.
Alors, il ne m'a pas échappé qu'il y avait au-delà de la taxe sur la politique, la taxe sur la personne et sur le sujet éventuel de mes vacances. Je voudrais en quelques mots vous le dire. D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce que il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça ? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs ? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Guylaine Ottenheimer, vous êtes convaincue par la réponse du ministre? Ça y est, on peut passer à autre chose ou pas?
Non, hein. Non. Je trouve absolument pas grave qu'il aille passer des vacances à Ibiza ou à Porquerolles ou à je sais pas où, c'est pas du tout le sujet. Mais déjà la semaine dernière, je vous avais dit que je le trouvais un petit peu arrogant dans sa réponse au professeur sur la façon dont il avait annoncé les dernières mesures le dimanche soir au dernier moment. Et en disant que cet homme était trop seul, ne consultait pas, ne dialoguait pas suffisamment. D'ailleurs, c'est vrai, tout le monde lui reproche à Rue de Grenelle, de gouverner un peu en solitaire. Il ne se mêle pas tellement aux autres ministres, c'est un peu le chouchou, c'est une personne de Macron, c'est une personne à part. Et je pense que dans une période aussi complexe que celle qu'on connaît, il est utile d'écouter les voix à la fois des syndicats, des administrations, des associations, de parents d'élèves, etc. Je pense que c'est très important d'être à l'écoute. Et ce n'est pas, effectivement, en étant en vacances à la veille d'un protocole extrêmement compliqué qu'il pouvait entendre ça. Alors, quand il dit « j'aurais pas du tout pris des décisions différemment », je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre s'il n'avait pas été vraiment à Paris, entouré de gens qui font l'opinion dans le domaine de l'école, s'il aurait pris exactement les mêmes décisions. Et aujourd'hui, beaucoup de gens renvoient la faute sur Véran, le ministre de la Santé, ou sur le Premier ministre, qui sont ceux qui ont validé les décisions. Mais quand on est ministre, il y a un moment... On peut aussi dire, attendez, ça c'est inapplicable à l'école. Vous ne pouvez pas emmerder les parents avec 3 tests par semaine, avec des petits bouts de chou de 3-4 ans, la queue à la pharmacie, c'est ingérable. Il y a un moment, on peut laisser l'école ouverte, mais aussi à ce moment-là, on prend le risque de laisser circuler le virus dans ces milieux.
Oui, on s'altère sur...
Bon, visiblement, la défense de Jean-Michel Blanquer, pardon, c'est qu'il était en télétravail, en fait, en quelque sorte. Bon, à Ibiza, ce qui est peut-être pas un détail symbolique, comme il l'a dit lui-même. Si le protocole dont parle Guylaine s'était bien passé, si ça avait été clair, si ça avait été fluide, si on s'était pas retrouvé effectivement avec de longues queues devant les pharmacies parce qu'il fallait tester les enfants 1, 2 fois, 3 fois par semaine, sans doute que Blanquer n'aurait pas été rattrapé ni par le fait qu'il ait pris des vacances, ni par son lieu de vacances, ni surtout, parce qu'à mon avis c'est ça en fait le seul sujet important, ni surtout la temporalité, c'est-à-dire le fait qu'il y soit toujours la veille de la rentrée scolaire, au moment où il communique sur le protocole. Je pense que c'est ça en fait. Et dans sa défense, il s'est pas trop mal défendu. Il a essayé de faire la part des choses en disant j'ai le droit de prendre des vacances, j'ai le droit d'aller à 2 heures de Paris. Bon, apparemment, c'était les consignes. Mais est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il peut se permettre de ne pas être rentré à Paris pour communiquer là-dessus, sur le protocole, la veille de la rentrée scolaire? Surtout, est-ce qu'il peut se permettre de donner les indications aussi bien aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux recteurs, qu'au grand public, aux parents, même aux enfants, la veille de la rentrée scolaire? On en parle depuis la rentrée, ça le poursuit, hein, au-delà de ses vacances à Ibiza, au-delà du fait qu'il est parti là-bas pendant les vacances. En fait, c'est ça le vrai problème. Donc, cette polémique n'aurait pas existé si ça avait été bien géré. Encore une fois, ça n'a pas été bien géré.
Amine El Khatmi.
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le fond de l'affaire, c'est effectivement des erreurs de communication dans la présentation du protocole sanitaire. Le fait qu'il ait été changé aussi souvent, je crois qu'il y a eu 4 versions en tout. Le fait que les enseignants se soient plaints de ne pas l'avoir reçu ou que sa communication ait été faite dans un journal en ligne à accès payant. Donc ça, ce sont effectivement des griefs qui peuvent être faits à Jean-Michel Blanquer. Après, très franchement, je trouve la polémique un peu exagérée sur Ibiza. D'abord, je pense qu'il aurait été en Irlande ou à Amsterdam, on en aurait pas fait toute une affaire, parce qu'évidemment, derrière Ibiza, dans l'imaginaire collectif, on imagine des boîtes de nuit, du champagne,
la fête, le luxe.
Et Jean-Michel Blanquer valsant avec des bouteilles de champagne. Je pense que c'était absolument pas le cas.
Boîte de nuit étant fermée à Ibiza, effectivement, il y avait peu de risques.
Ibiza ressemblant à une grande sous-préfecture française de 130 000 habitants, et d'un calme absolu l'hiver et contrastant avec ce qui se passe l'été. Donc après, il n'a enfreint aucune règle. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, il y a une règle avec 2 conditions. Lorsqu'il y a des vacances, on dit au ministre pas plus de 2 heures de Paris, pour une raison évidente. Je sais pas, mais on imagine un ministre de l'Intérieur qui serait un jour d'attaque terroriste à Mexico, à Montréal ou à Tokyo, personne ne comprendrait. Donc, à 2 heures de Paris et surtout joignable. Et je crois que ces 2 conditions étaient réunies. On imagine que les décisions ont été prises. Donc, Je ne vais pas dire que la proximité d'une échéance électorale doit sans doute un peu expliquer la surréaction de la classe politique, mais quand même un peu.
D'accord, mais en même temps, Louis Westhalter, il n'est pas très compliqué d'imaginer qu'elle est en vacances à Ibiza, aurait pu créer quelques remous. Bah oui, pareil, dans son cabinet ou même à Matignon, oui. On lui a dit attention, c'est pas la destination la plus.
Et visiblement, selon certains conseillers, cette consigne lui a été passée. On lui a fait comprendre que c'était peut-être pas le meilleur choix de destination pour ses vacances. Et effectivement. C'est symbolique, hein, Ibiza, voilà, c'est un imaginaire. Bon, c'est peut-être comme une sous-préfecture française. Enfin, c'est pas non plus une ambiance monacale. C'est pas une retraite en silence en général à Ibiza.
Donc voilà,
on n'est pas chez les moines à dire les offices.
Il n'y a pas
matin,
beaucoup des hommes politiques qui vont faire des retraites bah, dans les monastères. Hein. Il y en a qui le promettent, puis il y en a qui le.
c'est déjà arrivé. Vous avez raison de le rappeler, Laurence. Effectivement, et c'est des erreurs qu'on peut payer cher. Pour être un peu plus sérieux, je pense que Amine faisait la comparaison avec un ministre de l'Intérieur en cas de crise, mais justement, c'était une crise. Oui, je trouve que pas que les ministres ne doivent jamais prendre de vacances, être toujours sur le pont. Moi, quand on parle des vacances des ministres, qui sont un des sujets préférés des médias, hein, parfois quand on n'a pas grand-chose à dire, on parle des vacances des ministres. Moi, je pense que les ministres doivent absolument prendre des vacances. Au contraire, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour eux, pour leurs collaborateurs et pour les Français, parce que comme ça, ils se reposent un peu, ils soufflent, ils ne deviennent pas complètement fous. Et ils donnent la paix aux gens quelques jours aussi. Donc, ce n'est pas la question. Là, on est en situation de crise. Donc, comme un crime très grave, une attaque terroriste, c'est une crise pour un ministre de l'Intérieur, et bah, organiser un protocole sanitaire à un moment où on savait très bien que le variant allait frapper très fort la France, et c'est le cas, et bah, pardon, pour un ministre de l'Éducation nationale, c'est un niveau de cellule de crise. Ça n'a pas été fait comme ça, visiblement.
Un dernier mot, Guylaine.
Oui, il faut dire qu'il y a un contexte politique, c'est-à-dire que c'est surtout la gauche qui crie. Vous avez remarqué que les Républicains sont assez sages.
Ils sont discrets.
Ils sont très modérés.
Il semblerait que son très bon ami, le maire de Troyes, François Baron, ait demandé aux dirigeants LR de ne pas trop taper sur son ami d'enfance. Mais au-delà, pourquoi la gauche tape? Elle trouve un os à ronger. Elle déteste Blanquer. Ben oui. Parce qu'il il se bat contre le woke, il est un intégriste de la laïcité, il voulait interdire le voile dans la rue, enfin, tout ce que déteste une certaine gauche.
Je ne crois pas qu'il voulait interdire le voile dans la rue.
Fan du voile, mais il n'a pas voulu.
Non, mais voilà,
dans l'espace public, je ne sais plus. Ouais. Bon. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui exaspèrent la gauche.
Vous avez raison.
Et ils ont trouvé, là, en plus avec le symbole d'Ibiza, quelque chose qui fonctionne très bien.
Qui est très facilement compréhensible pour le grand public. On fait une pause, je passe la parole à ce sujet-là dans un instant à Amine El-Khatmi. Et puis on parlera d'Europe, évidemment, parce que c'est le grand jour demain pour Emmanuel Macron qui va présenter sa vision pour la présidence française de l'Union européenne. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain, Guylaine Ottenheimer de Challenge, Louis Westhalter de Marianne. Je voulais vous passer la parole, Amine, sur ce qu'on évoquait, sur le fait que Jean-Michel Blanquer, effectivement, incarne pour une partie de la gauche une espèce d'ennemi idéologique qui est un farouche défenseur de la laïcité, qui se bat contre le wokisme et toutes les influences américaines anglo-saxonnes à l'université. C'est aussi pour ça qu'il y a un tel retentissement sur cette histoire de vacances?
Bah oui, on lui fait payer. La réalité, elle est là, c'est qu'il fait partie, Jean-Michel Blanquer, dans ce gouvernement, de quelques ministres qui ont pris à bras-le-corps, je pense à Marlène Schiappa aussi, dans son genre, qui ont pris à bras-le-corps ces sujets. Donc effectivement, il est allé assez fort dans la défense de l'idéal laïque français, dans la lutte contre le wokisme, dans la lutte contre un certain nombre de dérives, y compris dans l'enseignement, et en particulier dans l'enseignement supérieur. On le voit, même si c'est pas son portefeuille, hein, c'est Frédéric Vidal, mais il s'est quand même beaucoup engagé. Il s'est pas mal engagé sur ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble, où des enseignants ont été menacés. Et donc, effectivement, vous passez pour un réac, ou pour pas dire pour un fasciste, puisque maintenant, même défendre la gastronomie française vous classe entre Robert Ménard et Marion Maréchal.
Ça, c'est Fabien Roussel qui en a fait les frais.
Voilà, donc on imagine que, vu la place de Roussel dans l'échiquier politique, faut imaginer ce que ces gens-là pensent de Jean-Michel Blanquer, qui est plus à droite que lui. Donc oui, voilà, après c'est le jeu politique.
Et puis il est issu de la droite.
Et puis il est issu de la droite, et puis bon. Et puis il n'a pas été fin. Enfin voilà, à un moment, il faut dire la vérité, c'est qu'il a aussi commis des bourdes. Sans doute une espèce de... je pense que quand vous êtes emporté dans ce genre d'affaires, il y a un moment où vous vous crispez, vous êtes un peu plus raide, et donc vous êtes moins ouvert au dialogue. Quand on apprend qu'à Matignon, on lui a suggéré, je ne sais pas dans quel terme, mais je pense que
c'est... Un autre lieu de vacances.
D'autres lieux de vacances.
Irlande.
Je pense que le directeur de cabinet de Jean Castex, il doit se dire, ben voilà, je vous l'avais dit, monsieur le ministre, si vous m'aviez écouté, on aurait évité cette polémique. Voilà, mais je vois bien ce que derrière certaines réactions, il y a aussi, vous avez eu raison de le rappeler, ce qu'il y a comme arrière-pensée et comme espèce de vengeance contre le ministre Laïcard.
Louis Wesselter.
Oui, il est évident que Blanquer est une cible pour la gauche. Mais au-delà de ces combats personnels sur la laïcité, qui sont à la fois ses convictions profondes et puis la manière de se donner la parure d'un homme politique, parce que c'est comme ça qu'il est aussi devenu un homme politique, moi je pense aussi que c'est l'homme à la batte pour les syndicats enseignants, mais pas de la même façon. Là, on voit quand même, et notamment avec la grève de jeudi dernier, qu'il y avait une colère sourde du corps enseignant depuis longtemps, qui a explosé d'un coup, avec le soutien de beaucoup de parents d'élèves, avec le soutien de certains inspecteurs généraux de l'éducation nationale, de certains chefs d'établissement. Enfin, il y a quand même toute la communauté éducative, comme on dit, dans son ensemble, qui a poussé un grand cri de ras-le-bol et qui aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui s'envoient par WhatsApp la nouvelle sur les vacances à Ibiza et qui disent mais trop c'est trop. Et je pense que c'est ça aussi c'est pour cette raison-là aussi que Blanquer est dans le cognateur de la gauche, c'est parce que ce corps électoral, ce corps enseignant, qui est un peu normalement, historiquement, le public captif de la gauche politique, a pris en grippe ce ministre. Pas seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi parce que, bien souvent, ce que disait Blanquer sur les plateaux télé ne correspondait pas à la réalité de ce qu'il voyait dans les salles de classe. Et en particulier depuis la crise sanitaire, où les protocoles, la manière de gérer le Covid à l'école, tout en maintenant l'école ouverte, quand on disait aux profs, vous allez avoir des moyens, vous allez avoir des tests, vous allez avoir des autotests, dans beaucoup d'établissements, ça n'a pas été la réalité. Je pense qu'ils payent ça aussi.
Un dernier mot, Guylaine.
Oui, je suis d'accord. Sur la crise, il n'y a pas eu assez de moyens pour les capteurs de CO2. Quand nous on a fait un sondage en demandant aux Français s'ils considéraient que sur un certain nombre de sujets Emmanuel Macron avait rempli sa promesse. Là où il y a le plus fort score, c'est sur l'école. Je pense que quand même le doublement de classes dans les CPE, CPE1 et dans les zones prioritaires, ça a marqué les esprits parce que les gens se rendent compte que c'est là que se forgent les différences. Et puis, d'une certaine manière, quand même, il a revalorisé, il a donné des primes. Enfin, il s'est penché quand même sur la question. On ne va pas tout faire comme ça en quelques années. En plus, il y a le Covid, en plus, etc. Mais je veux dire, c'est la première fois qu'il y a un tel effort qui est fait pour l'école. Et je pense que c'est quand même un des domaines où il y a eu le plus de résultats, le plus de moyens. Et Blanquer en a bénéficié jusqu'à maintenant. C'est dommage qu'il le gâche en se crispant, comme vous le disiez, sur ce comportement de quelqu'un qui a un petit peu perdu les pédales, quand même.
Gageons que l'actualité sera balayée, cette polémique, pour une autre, dans les prochains jours, évidemment. Oui. On va parler d'Europe, puisqu'Emmanuel Macron sera demain à Strasbourg, devant le Parlement européen, pour le coup d'envoi de la présidence française du Conseil de l'Europe. Donc, avec beaucoup de choses qui sont prévues. On va écouter Marine Le Pen, peut-être, qui commence déjà, qui a précédé Emmanuel Macron en faisant aujourd'hui même un discours. Elle renvoie dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Écoutez-la.
Que les choses soient claires, tant pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse, il n'y a pas et il n'y aura jamais de souveraineté européenne, car il n'y a pas de peuple européen. Défendre l'idée de souveraineté européenne, comme le font les jumeaux Macron-Pécresse, me paraît en outre totalement incompatible avec la fonction présidentielle gravée dans le marbre de notre Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale. Et le positionnement du drapeau européen seul à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe était à ce titre non pas une erreur de communication, mais un aveu édifiant.
Guylaine Ottenheimer, elle renvoie les jumeaux Pécresse-Macron dos à dos. Elle a raison, parce que c'est un autre clivage qui est à l'œuvre, là.
Oui, bon, ça, c'est pas nouveau, ça date d'il y a un certain temps. Hein. Les extrêmes sont anti-européens et, disons, les partis de gouvernement seraient plus pro-européens, encore que, on l'a vu, le PS a été très divisé sur la question, comme le parti gaulliste. Non, cette histoire de l'arc de triomphe a été stupide, c'est inscrit dans les textes, on ne peut pas faire figurer le drapeau européen seul, il faut qu'il soit avec le drapeau français. Ça a même été un des sujets qui a crispé lors de la négociation du dernier traité. Et voilà, il y a une nation et il y a une Europe, mais il n'y a pas juste l'Europe. Bon, maintenant, sur l'histoire de la souveraineté. Aujourd'hui, la seule justification de l'Europe, c'est qu'on est c'est à cette échelle qu'on pourra régler un certain nombre de problèmes compte tenu de la configuration mondiale. C'est pas nous tout seuls dans notre coin qui régleront la question des GAFA, la question de l'immigration. Il y a un certain nombre de questions qui ne peuvent être réglées qu'au niveau européen.
Oui, mais est-ce qu'à 27, on peut les régler, ces questions-là? Est-ce que c'est absolument
mais
pas...
Mais alors, il faut y réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on fait une Europe à plusieurs vitesses? Est-ce que
mais on peut on pas arrête, décider arrête, tout seul de faire une Europe
majorité,
à plusieurs vitesses?
On fait à la majorité et puis à l'unanimité. Il y a un certain nombre de choses qui doivent évoluer. Et là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Marine Le Pen sur le fait qu'on ne peut pas avoir une souveraineté européenne et un
européen.
État français.
Hein, il n'y a pas de peuple européen.
Alors, ce que disait Paul Ricoeur, qui était un grand influenceur de Macron, puisqu'il a travaillé pour lui, qui était un très grand pro-Europe, et qui reprochait justement à l'Europe d'être trop technocratique. C'est-à-dire que c'est vrai, on parle beaucoup de sujets économiques, Macron parle beaucoup de croissance, d'investissement. Or, l'Europe, c'est aussi plein de cultures qu'il faut respecter, qu'il faut valoriser. Et je pense que les dirigeants politiques parlent tout le temps de la machine européenne, des sous qu'on peut mettre, des budgets qu'on peut faire, et pas assez des peuples qui doivent se parler. Ça ne fera pas un peuple. Mais vous croyez qu'il n'y a qu'un peuple aux États-Unis? Vous croyez qu'il n'y a qu'un peuple
Mais les Américains à l'étranger disent je suis américain, mais nous, à l'étranger, on ne dit pas je suis européen.
Mais nous, on peut vous dire que l'Américain de Wyoming, ce n'est pas l'Américain de New York. Et puis celui qui est issu de.
Vous savez très bien qu'ils ont un patriotisme.
Qui est issu de l'esclavage et celui qui est.
Ils sont américains.
Ils sont tous américains.
Ils sont tous américains.
Ils sont tous américains.
On appelle une nation.
Oui, mais non, mais. Alors, ils sont tous américains. Ils sont tous américains.
Dans une confédération. Et déléguer un certain nombre de pouvoirs à cette.
On ne
peut pas comparer. D'abord, ils sont tous américains. Nous, pardon, je suis désolé de le dire, on se définit d'abord comme français, en premier lieu, éventuellement comme européen après. Ils votent pour le même président, donc je suis désolé, mais ça fait quand même une différence majeure. Lorsque tous les quatre ans, les Américains sont appelés aux urnes pour élire le président des États-Unis, nous, j'ai pas l'impression que les élections européennes déchaînent la même passion et le même enthousiasme auprès des peuples européens. Et puis,
il y a 50% d'abstention au vote des élections présidentielles aux États-Unis.
Non, mais d'accord, mais
aux européennes, on a largement ce score.
Les États-Unis d'Europe, moi, à part dans quelques textes d'orientation des congrès du Parti socialiste, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Enfin, c'est une réalité qui n'existe que dans certains esprits, qui n'a aucune
mais
réalité.
C'est une utopie,
Oui, mais on peut vivre avec des utopies,
et
mais...
On peut les réaliser
Vous connaissez la phrase de Jaurès, hein, il faut aller vers l'idéal en étant confronté au réel. La vérité,
c'est exactement ça.
Voilà, mais la vérité, c'est que sur un certain nombre de grands sujets, et sans doute que le président de la République l'a en tête et va devoir y répondre, sur un certain nombre de grands sujets sur lesquels un certain nombre de pays de l'Union européenne ont été des problèmes auxquels ils ont été confrontés, l'Europe a été absente. Sur la question des migrants qu'on a eu il y a quelques semaines, elle a été absente. Sur la question des sous-marins, je suis désolé, je n'ai pas souvenir d'avoir senti une grande solidarité et une grande offensive concertée des chancelleries européennes. Sur la question de la pêche, c'est pas
mais on est d'accord.
Oui, mais je ne suis pas en train de vous accuser.
Regardons vers le futur.
On est d'accord. Oui, mais le problème, moi, vous savez, je me souviens, j'ai 34 ans maintenant, je me souviens, ma première campagne électorale, c'était en 2004, j'avais 15 ans. François Hollande était tête de liste aux élections européennes de juin 2004. Et je me souviens, j'ai un t-shirt de campagne au Parti Socialiste et on militait. Et le slogan, c'était « Pour l'Europe sociale ». Vous voyez ? Bah, pour l'Europe. Et à l'époque, on nous disait exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui,
et
pour
ben,
l'instant,
on est en train d'aller vers un SMIC.
L'Europe, c'est un grand marché financier. L'Europe, c'est... On nous disait, c'est l'Europe des technocrates de Bruxelles, etc. Et maintenant, en 2004, on va construire l'Europe sociale et on va construire l'Europe politique.
Mais c'est long,
on
y est pas.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler d'Europe et je vous passerai la parole, Louis Vassalter.
C'est très long.
Ça enflamme les esprits.
C'est très long.
Et les débats.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on parle de l'Europe. Emmanuel Macron sera demain devant les députés européens pour lancer la présidence française de l'Union européenne. Il y a des visions qui s'affrontent, évidemment. Les candidats à la présidentielle s'engouffrent dans la brèche. Yannick Jadot sera demain dans l'hémicycle. Il a réussi à négocier pour prendre la parole face au président français, parce que pour la première fois, le président accepte de répondre aux différents groupes qui représentent les 27 pays de l'Union. Il y a beaucoup d'enjeux pour les Français, Louis Absalter.
Ça dépend de la thématique qui s'imposera dans la campagne. Pour l'instant, bah, c'est la campagne est parasitée par le Covid. Et puis effectivement, c'est plus ces sujets mais identitaires au sens général qui sont imposés, notamment sous l'influence de Zemmour. Mais quand même, en 2017, le clivage Macron-Le Pen, il notait quelque chose là-dessus. C'est-à-dire qu'il se faisait beaucoup sur l'Europe, sur la conception qu'on se fait de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, des délégations de souveraineté à l'Union européenne. En fait, ça se faisait plus largement sur où se situent les leviers. Et est-ce que c'est nous qui les avons ? Et ça, la crise du Covid, avec toutes les remises en cause de la mondialisation qu'elle a induite, a conduit Emmanuel Macron lui-même à dire « il nous faut reprendre le contrôle quand même ». Sous-entendu, on a délégué un peu trop de notre souveraineté à différents échelons que le peuple français ne peut pas contrôler, et parfois que le président français ne peut pas contrôler. Ça, c'est les grands enjeux. Le grand problème de la question européenne, c'est que, évidemment, on l'a vu, elle suscite des grands débats parmi experts, journalistes, politiques, mais elle est tellement technique, elle paraît tellement abstraite, elle est tellement lointaine que...
et on la caricature tellement.
Et puis on en parle sans connaître.
Mais qu'il y a un truc qui ne va
pas. Comprendre les institutions européennes, il faut faire un an de droit à temps plein. Il y a ça aussi, ce problème. L'aspect, l'architecture technocratique est très complexe du fonctionnement des institutions européennes. Tout cela est tellement compliqué que c'est très difficilement reliable au sujet de la vie quotidienne et ça ne se règle pas en deux minutes de prise de parole. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on en débatte un peu plus longuement. Donc, je ne saurais pas dire si la question européenne va s'imposer premier dans le débat. Ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron, il est évident qu'il veut en faire une ligne de force. Pourquoi ? Parce que c'est au moins un sujet sur lequel il a une ligne claire. Il a cet avantage. Mmh. Et dans un temps de confusion où il y a de multiples émetteurs, où toutes les voix sont mises à égalité, avoir une ligne claire sur un sujet, c'est plutôt profitable. Et en face, on voit une Marine Le Pen qui contre-attaque là-dessus, mais qui a quand même changé d'avis sur la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, sur l'avenir, ce qu'il faut faire, donc sortir de l'Europe ou en changer. Maintenant, elle veut en changer de l'intérieur, mais ce n'est pas la ligne historique qu'elle tenait. Et puis, une droite classique, Valérie Pécresse, qui, Guylaine l'a rappelé, est historiquement très divisée sur ce sujet, mais très divisée entre la branche descendante de Philippe Séguin, plus souverainiste, qui n'hésite pas à remettre en cause l'Union européenne telle qu'elle est maintenant, et puis une branche plus Alain Juppé, on va dire. Exactement. Qui, au contraire, est historiquement plus favorable à la construction européenne. Et ce débat chez LR, il n'est pas réglé.
Mais sur l'immigration, la ligne de LR a été extrêmement à droite.
Oui, alors l'immigration,
sur,
oui. Mais justement, la question européenne conditionne la reprise en main de la politique d'immigration. Mm-hmm. Parce que maintenant, ils sont tous d'accord. Et d'ailleurs, ils l'expliquent maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que les Français ne savaient pas tous. Mais Marine Le Pen, comme Zemmour, comme Pécresse, et même Macron maintenant, ont bien expliqué que la France n'avait pas tous les leviers pour contrôler son immigration, parce que beaucoup de décisions dépendent de la Cour européenne des droits de l'homme. Là, ce n'est pas le cas de l'Union européenne, c'est le cas du Conseil de l'Europe. Mais on reste dans des traités qui ont été signés par la France et qui la tiennent juridiquement. Et c'est normal, on a signé un traité, donc on le respecte, et la justice française les respecte. Donc c'est aussi en ce sens-là que la question européenne, à la fois, elle est partout, parce qu'elle conditionne plein de sujets, parce que sur un certain nombre de sujets, les leviers sont européens, en tout cas, c'est pas en changeant la loi française que du jour au lendemain, vous agissez sur les choses. Et en même temps, il est compliqué de relier la question européenne, la question des institutions, la question de la Cour européenne des droits de l'homme, à ces sujets quotidiens qui vont animer la campagne. Et quelquefois, on se retrouve du coup dans des débats stériles qui tournent à vide parce que tout le monde dit « je vais changer les choses, vous allez voir ce que vous allez voir ». Mais maintenant, je crois que les électeurs sont plus exigeants et ils demandent aux candidats comment vous faites, quel traité vous changez, à quel niveau ça se joue, quel est le levier. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils se font avoir.
Et c'est bien qu'il y a une inertie dans les leviers à activer.
Pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on gagne une élection sur les sujets de l'Europe. Simplement... Emmanuel Macron, quand même, a obtenu quelques avancées. Hein. Le budget de relance, les GAFA, il travaille sur un certain nombre de sujets, il y a eu des avancées. Il a un petit peu bousculé la chose, il faudrait effectivement quelque chose de... un tsunami beaucoup plus fort pour remettre l'Europe sur pied. En revanche, s'affirmer européen, faire de la provoque en s'affirmant comme très européen, ça... attise les contradicteurs, les ennemis qu'il fait passer pour des passéistes, des grognons, des grincheux, des empêcheurs de tourner en rond. C'est une façon aussi c'est un étendard pour rallier en tout cas son camp de premier tour. Parce que son camp de premier tour, il est plutôt ouvert au monde, ouvert à l'Europe, ouvert voilà, au business mondial, à la concurrence et à la compétition mondiale. Ils ont compris ça. Chaque fois qu'il ravive cette flamme européenne, ben, il a tout son électorat qui est là, qui est présent et qui va voter pour lui. Et rejetant les extrêmes au bord du... C'est pour ça qu'il s'en sert et qu'il est très content d'avoir cette présidence.
Amine El Khatmi.
Oui, moi je suis d'accord, on ne gagne pas ou on ne perd pas d'ailleurs, au demeurant une campagne, une présidentielle sur les questions européennes, mais il arrive parfois que des sujets européens viennent heurter le débat politique national et la vie de notre pays. J'ai cité les thèmes tout à l'heure, que ce soit les migrants, la pêche, etc. Là, sans doute, il y a un sujet qui est en train de monter quand même en France et qui dit peut-être aussi quelque chose d'une forme d'incompréhension depuis notre pays du fonctionnement des institutions européennes. C'est l'élection de la présidente du Parlement européen qui s'appelle Roberta Metsola, qui est maltaise, qui a 43 ans et qui surtout s'est illustrée ces dernières années par des positions anti-IVG. Elle est ouvertement anti-IVG et en fait elle est élue parce qu'il y a une espèce d'accord un peu baroque, il faut dire.
Mais c'est toujours comme ça.
Entre les sociaux-démocrates, les libéraux, le Parti populaire européen. Et j'ai trouvé, il y avait un tweet tout à l'heure de la sénatrice Laurence Rossignol, qui est socialiste, qui dit, et ancienne ministre de François Hollande, honte aux parlementaires français qui ont voté pour une présidente du Parlement européen anti-IVG au prétexte, je la cite, de l'habituelle tambouille européenne. Et donc ça, c'est aussi, quand on parlait tout à l'heure de pourquoi les Français ne comprennent pas le fonctionnement. Alors je ne dis pas que les Français massivement vont s'intéresser à ce sujet, mais ça dit aussi quelque chose, cette espèce d'incompréhension de ce qui se passe à Bruxelles, parce que nous, en France...
Mais vous ne devez pas caricaturer la présidente, parce que c'est vrai qu'elle est anti-IGV.
Je reprends ses positions.
Il faut savoir qu'à Malte, l'avortement est interdit. Oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a défendu et qui défend les LGBT et toutes les minorités. Oui. C'est quelqu'un de très complexe qu'on comprend difficilement en France parce qu'on a des clivages
qui ne sont
pas les mêmes clivages que chez nous.
Elle a dit qu'elle se conformerait à tout ce qui est la législation européenne.
Ses convictions sur l'IVG.
Mais si vous voulez, ça n'aide pas à la compréhension, Guylaine.
Oui, mais on ne peut pas résumer la présidente. On ne peut pas résumer l'identité de cette présidente au fait.
On peut choquer. Je suis désolé, pardon.
Je serais choquée si ça rentre dans le débat, si ça si ça a des conséquences politiques sur l'Europe. Pour le moment, elle a des convictions personnelles. Et je remarque que quand même c'est pas une conservatrice totalement réac, puisque elle s'est montrée toujours très vigilante sur les minorités et LGBT. Oui,
et par ailleurs, l'Union européenne n'a aucune compétence en matière d'avortement, donc ça peut pas influencer les politiques européennes. Mais c'est intéressant ce que disait Admin sur le fonctionnement des institutions, parce que nous, on a du mal à comprendre en tant que Français sous la 5e République, parce que en fait, les institutions européennes, c'est la 4e République. C'est de la négociation permanente dans les arrière-coulisses, les boutiques, en disant je te donne telle présidence, tu me donnes telle vice-présidence. Et en fait, c'est ce qui se passe. Au niveau de l'Union européenne? Non, mais je conteste pas. C'est un régime parlementaire. En fait, c'est un régime parlementaire à l'anglo-saxonne. La grande faiblesse démocratique, c'est que, premièrement, la complexité de l'architecture, ce qui fait que les citoyens ne comprennent pas comment les décisions sont prises. Et deuxièmement, le désintérêt qui nourrit une abstention très forte à chaque élection européenne et donc un déficit de légitimité démocratique pour les parlementaires européens. Et on ajoute à ça la Commission qui a le rôle d'un gouvernement mais qui n'est pas élu puisque les commissaires sont comme des ministres. Leur présidente de commission n'est pas élue non plus. Elle est juste validée par les parlementaires européens. Il y a quand même, on l'a pointé, ça fait longtemps qu'on le pointe, mais il y a quand même un problème de déficit démocratique dans ce fonctionnement-là. Mmh. Et on ajoute à ça, effectivement, ce fonctionnement de négociation permanente dans des enceintes européennes à Bruxelles, à Strasbourg, auxquelles les citoyens ne s'intéressent pas plus que ça.
Et effectivement, dans notre culture nationale.
Et c'est pas la 5e République où vous avez des grandes personnalités. Alors c'est un régime qui a évidemment ses grandes faiblesses aussi. Et Guylaine qui a fait un livre sur le sujet ne va pas me démentir. Mais nous, c'est notre culture politique, en tout cas depuis Général de Gaulle. Donc, nous avons beaucoup de mal à saisir ce fonctionnement-là. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls, parce que les Français ne sont pas le seul peuple à se désintéresser du fonctionnement des institutions européennes. Pourtant, ça nous dessert, parce que les Allemands, typiquement, envoient beaucoup plus de personnel technocrate élu dans les institutions européennes.
Ils noyautent la Commission.
Et ils sont beaucoup plus puissants que nous pour peser sur les arbitrages.
Merci à tous les trois. On commentera le discours d'Emmanuel Macron demain soir dans Punchline. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Dans un instant, Alexandre Lemaire à 20h pour les informations. Et ensuite, ce sera Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur notre antenne.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.